Chers frères et sœurs, elle est admirable, cette Cananéenne, qui crie et qui trouve la force de crier encore. 20 fois, elle aurait pu baisser les bras, elle aurait même pu perdre la foi, mais elle y croit encore, elle continue. Et c'est pour mieux comprendre ce que vit exactement cette femme que je voudrais, avec vous ce matin, m'arrêter sur les étapes de maturation de la foi au cours de notre vie sur la terre. Ça commence évidemment assez souvent par la foi de l'enfant. L'enfant, lui, il vit dans un cadre assez protecteur. Les adultes, généralement, bien qu'il y ait quelques exceptions un peu tragiques, mais généralement tâchent de l'entourer d'une atmosphère bienveillante. Et l'enfant participe lui-même à cette enveloppe qu'il se construit, ce qui fait que l'enfant voit les choses qui sont proches de lui, ce qui est plus loin, ou bien il ne le voit pas, ou bien il le laisse dans le vague. Tout ce qui arrive, il le rapporte à sa propre vie en le transformant ou en le transfigurant. Ce qui fait que dans la vie de l'enfant, la réalité et le rêve s'entremêlent étroitement. Hier soir, une maman de la paroisse qui a 2 petits garçons, je ne les nomme pas mais ils sont encore en vacances, et elle m'envoie un petit texto, elle me dit « Le petit dernier, quand on a dit le Notre Père, a trouvé une nouvelle version, c'était Notre Père, que ton rêve vienne. » Je lui dis « Merci, c'est parfait pour l'homélie. » Et pourquoi ? Parce que justement, vous voyez, de l'enfant au rêve, il n'y a qu'un pas. Ça, c'est l'enveloppe, la bulle de l'enfant, et du coup, dans sa foi, l'enfant a une confiance phénoménale. D'ailleurs, Jésus nous donne la foi de l'enfant en exemple, en modèle. Mais l'enfant sent poindre en lui peu à peu une pulsion de vie qui au début est plutôt sourde et qui se détache de plus en plus nettement. Cette pulsion le pousse d'ailleurs vers l'autre sexe et le pousse à vouloir embrasser toute la plénitude du monde. Dans cet élan, l'adolescent trouve la bulle de l'enfance trop étroite, trop étriquée. Il voudrait s'en libérer de ce carcan. Et la conséquence, c'est que dans cette période, il cherche sa place, il cherche à développer sa propre personnalité. Et sur le plan de la foi, il se passe la même chose. Les choses qui ont été reçues dans l'enfance paraissent infantilisantes, étriquées, trop étroites, incapables de répondre aux désirs les plus profonds de son cœur. C'est pourquoi souvent, l'adolescent va se montrer hypercritique, en décalage par rapport aux générations qui l'ont précédé. Comment est-ce qu'on sort de cette première crise de foi dans l'existence ? Eh bien, par plein de chemins différents, mais par exemple, en approfondissant ses propres convictions philosophiques, en prenant un peu de hauteur, en trouvant des modèles, en nouant de solides amitiés qui vont permettre une nouvelle attitude de foi et qui vont montrer au jeune homme ou à la jeune fille que la foi chrétienne, loin d'être un éteignoir, se révèle être au contraire le lieu idéal pour vivre en homme ou en femme libre et créatif. Si le jeune fait cette expérience, alors il entre dans une période de la foi assez enthousiaste. C'est ce que l'on a vu, frères et sœurs, quand on a vu tous ces jeunes partir au JMJ. Il y a un magnifique élan de foi, parfois un peu intransigeant, mais qui a soif d'absolu, qui veut se donner, qui est capable de remuer ciel et terre, de déplacer des montagnes, et c'est beau. Mais la vie passant, cet élan, peu à peu, s'étiole. L'arc de la vie se distend au fil des échecs, des épreuves, des compromissions de l'existence, de la résistance même du réel. Parce qu'il faut le dire, le jeune qui est dans cet élan idéalise à la fois le monde qu'il voudrait changer et sa propre petite personne. Et entre les deux, peu à peu, émerge le réel douloureux. Et là, devant cette émergence, frères et sœurs, eh bien, il y a la tentation de tomber dans le désenchantement, de devenir des adultes blasés. Pire, on peut même finir par être des adultes aigris, amer, meurtri. Comment on en sort de cette deuxième crise de foi ? En permettant à la foi de s'enraciner plus en profondeur sur son propre terrain, de sorte qu'elle soit capable de résister davantage aux bourrasques de l'existence et qu'elle ne se fasse pas balayer au moindre soubresaut du monde. Frères et sœurs, c'est à ce moment-là que s'introduit dans la foi la fidélité, la persévérance, et l'obéissance. Des choses qui ne sont pas des petites choses dans la vie chrétienne. Et croyez-moi, cette cananéenne, précisément, elle en est là. Elle est dans cette foi qui prend du caractère, cette foi qui devient un peu combative, capable de résister. Vous voyez que non seulement cette femme trouve l'énergie de crier et de crier encore, ce qui en met plein la tête aux disciples qui en ont ras-le-bol, ils ne s'en cachent pas, non seulement elle trouve cette force, mais quand elle arrive auprès de Jésus, comme diraient les jeunes, elle se prend un vent. Jésus ne lui répond même pas au départ. C'est un peu violent, a priori. Elle ne s'arrête pas, elle continue. Et quand Jésus lui dit ensuite, il lui rappelle l'élection des fils d'Israël, qu'il est d'abord venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, elle ne se sent pas exclue, elle sait que quelque part dans ce plan de Dieu, elle aussi, elle a sa place. Et donc, elle continue et elle dit « Mais moi, la place des petits chiens qui ramassent les miettes, ça me va très bien. » Et frères et sœurs, en vous parlant des chiens, des petits chiens qui ramassent des miettes, je pense sincèrement et profondément à vous qui vous approchez chaque dimanche de l'autel en croisant les bras pour recevoir la bénédiction. Vu de loin, on pourrait penser que vous n'allez récolter que des miettes, que vous êtes un peu laissé de côté. Et pourtant, je suis persuadé que Dieu, comme avec cette femme cananéenne, est touché par votre fidélité, par votre persévérance, et que dans ce contexte, il vous ouvre grand les bras et qu'il déverse en abondance les grâces de son cœur. D'ailleurs, je suis toujours ému quand certains m'en témoignent. Ce cheminement qui est parfois douloureux, vous le vivez souvent d'abord dans les larmes, mais certains m'ont dit combien, après plusieurs mois, voire plusieurs années, parfois à pleurer, eh bien ils avaient goûté d'une manière déroutante la proximité de Dieu dans cette bénédiction. Frères et sœurs, après cette étape, il y a encore une ultime étape. Et là, on ne sait pas si la cananéenne l'a vécue, on ne sait pas à quel âge elle est décédée, on verra tout ça au ciel, mais Romano Guardini, qui est le théologien dont je m'inspire un peu aujourd'hui, qui était un peu un maître à penser de Benoît XVI et du pape François, il dit ceci du grand âge. Je vous le partage parce que je n'arriverai pas à le dire aussi bien que lui. Il dit « L'homme qui vieillit prend davantage conscience de l'éternel. Il s'agite moins et ainsi les voix venant de l'au-delà se font mieux entendre. L'éternité envahissante fait pâlir la réalité du temps. Le croyant peut relâcher la tension dans laquelle il s'assurait sans cesse de la réalité de sa foi. Il n'a plus besoin de se cabrer devant la ténacité ou la dureté de l'existence. Tout s'arrange de nouveau, non sous le coup d'un ensorcellement, mais à travers les fissures et les contradictions qui déchirent le monde, un sens plus élevé commence à poindre. L'existence devient transparente et un nouvel accord se prépare. Ainsi, la foi prend une forme nouvelle. C'est la foi du vieillard. Elle devient vénérable. La lumière éternelle déjà la transfigure. » Et en vous lisant ces lignes, je ne peux pas ne pas penser à un visage. C'est celui du vieux pape Benoît XVI, dans les dernières années qu'il a vécues, retiré dans son petit monastère au Vatican. Nombre de ceux qui l'ont approché alors ont témoigné en disant « Ce vieillard, ce vieil homme ressemble à s'y méprendre au vieillard Siméon. » Vous savez, dans l'Évangile, ce vieil homme qui se tient dans le temple et qui a la joie de prendre l'enfant Jésus dans les bras et qui ensuite dit au Seigneur « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » Elle est magnifique, cette chanson de Siméon. Elle dit toute la paix du vieillard qui sait que la victoire est déjà remportée, que la victoire est déjà du côté de la foi. Et du coup, une paix l'habite que parfois, dans les âges plus jeunes de l'existence, nous n'avons pas. Il y a un prêtre de Lyon qui, en rencontrant le vieux pape Benoît XVI, a dit « Ses yeux nous disent déjà le ciel ». Je vous ai dit tout cela, frères et sœurs, pas simplement pour mieux comprendre le combat de la femme cananéenne, ce combat de la foi qui fait l'admiration de Jésus, mais je vous dis tout cela parce que toutes ces phases de crise de la foi que nous traversons tous, elles sont importantes et il ne faut pas les confondre avec le doute. Douter pour douter, c'est stérile. Et vous savez que le doute, si on en vient à le ruminer et à le nourrir, c'est même un péché. Il faut s'en confesser. Mais attention, ça n'est pas forcément de cet ordre-là. C'est peut-être tout simplement une étape, une marche à monter pour vivre une nouvelle maturité dans la foi qui sera source d'une nouvelle fécondité. Et alors, ça n'est pas vain. Ça vaut le coup d'avancer. Ça vaut le coup de le traverser. Petite cananéenne, nous nous confions à ta prière. Toi qui as eu le courage d'aller vers Jésus avec ténacité, audace, persévérance, fidélité, nous te demandons les mêmes grâces pour chacun d'entre nous durant tout notre pèlerinage sur cette terre. Amen.